Cube Radio.
Bon, ben mon amour, les bonnes habitudes ne se perdent pas. C'est pas dit que parce qu'on est en pandémie, parce qu'on peut pas faire le devine qui vient souper à la maison et qu'on le fait dans une salle de conférence à Cube, c'est pas dit qu'on va pas se chicaner sur l'ouverture de la bouteille de vin. Tout, je dis pas.
C'est pas Twist Cap.
Non, t'es incapable d'ouvrir une bouteille de vin comme
tout le monde. Je me blesse souvent.
Non, mais soit tu te blesses, soit tu blesses la bouteille.
C'est froid.
C'est parce que t'es pas précautionneux avec la bouteille de vin.
Je suis dans mon élément ce soir.
Pourquoi?
Deux gars de sport. Tu sais que j'ai bien des choses à leur dire, c'est écœurant.
Tu dis, on se fait. C'est sportif avec les gens de ce soir. C'est parce qu'on reçoit Georges Larac, qui a été 13 ans quand même dans la Ligue nationale de hockey. Moi, ça m'impressionne. Et il était tellement, il est tellement bâti, puis il était tellement l'homme fort du hockey.
Calme-toi.
Non, calme-toi. Que les gens l'appelaient The Rock. Moi, je trouve ça tellement drôle.
Tabarnache, t'as-tu vu les yeux? T'es tellement bâti. My God. On se calme?
Oui, mais toi, t'as une autre sorte de six-pack. Mais attends, ce que je veux dire, c'est qui le deuxième invité?
Attends, il est anti-vaccin.
Non, c'est pas ça, c'est
il
plus subtil. Non,
tu résumes trop. Faut en parler.
C'est plus compliqué que ça. Est-ce que je peux dire c'est qui notre deuxième invité? Le deuxième invité, c'est l'humoriste, comédien, animateur, scripteur, tout. Il fait tout. Jean-François Baril, il fait tout.
Et je l'ai connu, Jean-François, en faisant des têtes en fil.
Ici, ben oui. Faisait.
Et écoute, c'était là, tu sais, il y a des coups de foudre, là. Tu rencontres des gens, puis ça clique tout de suite.
Oh, ben là, toi, moi, t'aimes pas ça que je parle de Georges en disant gna gna gna, il est super sportif, mais là, tu me parles de ton coup de foudre pour Jean-François Baril. Veux-tu me dire quelque chose?
Je joue pas dans cette équipe-là.
Ah, mais qu'est-ce que t'en sais pour l'instant? On sait jamais.
Je m'entends bien avec lui, vraiment super bien. C'est un bon gars. Un gars de famille, hein. il va nous parler, c'est sûr, de ses enfants et du sport-études, qui est son thème de prédilection.
Donc, ce soir, on reçoit non seulement un végétarien, mais un végétalien. Georges est vegan. Puis, on devait décider ce qu'on mangeait ce soir. Fait que Georges avait dit, j'aimerais ça, t'sais, des sushis vegan. Fait que là, on a contacté Jean-François pour lui dire, ça te dérange-tu de manger des sushis vegan? Il a dit deux choses. Il a dit, premièrement, je suis pas très légumes. Deuxièmement, j'haïs les champignons. Mais je trouve ça assez rigolo de provoquer une rencontre entre Georges et Jean-François, parce que Jean-François, pendant un bon moment, était propriétaire d'une sorte de diner, d'un restaurant de hamburgers et de hot dogs. Et c'est ça.
On est allé manger à Chambly cet été, puis c'est son fils qui nous a fait l'hamburger. Il est allé faire sa moutarde.
Il est allé faire sa moutarde.
J'ai jamais vu un hamburger avec autant de moutarde de ma vie. Quand je l'ai mangé, ça pissait de partout. J'en avais sur moi, puis tout ça. M'a dit à Jean-François, super fin ton fils. Mais dis sa moutarde.
Slack la moutarde, puis slack le ketchup. Bon, est-ce qu'on le boit, ce vin-là? Écoute,
si,
on
oui,
boit. Écoute, c'est vraiment spécial. L'arpent des voudons. Des voudons. En tout cas, c'est un Sauvignon blanc, c'est recommandé par Patrick Désy de Méchant Raisin. Je pense que la personne qui a fait l'étiquette du vin, c'est un médecin, parce que son écriture est incompréhensible. C'est comme écrit à la main. L'important, ce n'est pas la bouteille, c'est l'ivresse. Alors, je te fais ça. Hey, oui.
Georges, est-ce qu'il boit?
Ben, moi, je ne sais pas s'il boit, parce qu'il a annoncé tout récemment qu'il avait envie de se battre avec Mike Tyson. Fait que si tu as le goût de te battre avec Mike Tyson, t'es mieux d'être en super, super, super méga forme.
Si je comprends bien, Georges a comme une maladie très grave qui va nous annoncer, il veut en finir.
As-tu déjà vu? Comme un suicide.
As-tu déjà vu les combats de Mike Tyson?
Mike Tyson, attends, on se souvient, Mike Tyson, à un moment donné, qui avait arraché l'oreille de son adversaire.
Puis, attends une minute, 30 secondes. Les combats de Mike Tyson, 30 secondes. Fini.
C'est ce qu'on appelle un éjaculateur précoce. Un boxeur précoce.
Georges, il est tout gentil, Georges, il est tout doux, puis il parle comme ça. Puis
c'est un beef.
Non, ben oui, c'est un job.
Ben oui, tout à fait.
Les gueules, puis il veut pas faire mal aux animaux.
Oui.
Il est tout fin comme ça, mais quand il était sur la glace, là, c'était comme un psychopathe.
T'es The Rock.
Ouais.
Oh oui, puis il est tout bâti. Puis...
Hey! J'étais là, caché derrière.
Ah, t'étais caché. Est-ce que vous connaissez tous les deux ou pas?
Un peu, mais pas tant.
Pas tant que ça.
T'as travaillé un peu au 99 aussi.
Ouais.
Fait que j'étais...
L'été.
Ouais, l'été.
T'étais pas là. J'étais même remplacé sur ton show.
Ouais.
Ah, t'as déjà remplacé Georges? Ben, coudonc. C'est comme un sous-genre.
Est-ce que les gens se trompaient?
Georges
adjacent. Oui, les gens se trompaient. Hein?
Mais c'est parce que physiquement, vous ressemblez vraiment beaucoup. La ressemblance est vraiment frappante.
Quand je suis né, j'avais sa grosseur.
Et Georges, tu mesures combien?
6'3".
Parce que avant qu'on commence, avant que vous arriviez, je parlais avec Richard, puis je lui disais à quel point tu étais... bâti puis baraqué. Richard, il trouvait qu'il commençait à être jaloux un peu. Assis, c'est pas.
Ah, assis, on est plus proche.
C'est vrai.
Debout.
Cheers.
Cheers.
Hey, cheers. Écoute, qui aurait cru qu'un jour...
On souperait dans un bureau en haut de cube, ensemble.
Ben oui.
Justement, on vous a reçu chez
je
nous.
Sais, je sais, je sais.
Bon, ben écoute, c'est vraiment spécial parce que normalement, on vous recevrait chez nous. Là, on est dans une salle de conférence. Mais en même temps, je me dis, regarde, on est à prendre notre distance. Là, je tiens à le dire à tout le monde, on est à 2 mètres, puis tu sais, tout est désinfecté et tout ça. Mais toi, Georges, tu l'as déjà eu, la COVID.
Oui.
Est-ce qu'il y a des chances que tu pourrais l'avoir une deuxième fois?
Ça me surprendrait beaucoup. J'ai été donner du plasma à Hémo-Québec parce qu'ils ont dit que les gens qui l'ont eu, au Québec... À Montréal, ils ont soigné le premier cas de COVID avec du plasma de quelqu'un qui l'avait eu.
Ah, OK.
Donc, ils encouragent les gens qui l'ont eu d'aller donner du plasma.
Attends, mais si tu me craches dans la face, là, je vais être immunisé, c'est ça?
Non, c'est pas
non,
ça.
Si
c'est,
tu que...
non, c'est les anticorps dans ton sang.
Oui, c'est ça, j'ai les anticorps
dans... Faut que tu bois
j'ai
le sang de Georges.
J'ai les anticorps dans le plasma, puis avec ça, ils peuvent soigner les gens qui l'ont eu. Donc, tant que j'en donne... Ils peuvent te dire si tu as des anticorps encore.
OK, puis?
Ben normalement, tu es correct. Là, tu peux pas leur pogner puis le donner.
OK, mais est-ce que régulièrement, tu retournes
ouais,
pour en redonner?
Oui, le plasma, tu peux y aller plus régulièrement que le sang.
Ouais, c'est genre aux 10 jours, hein? Le plasma, c'est vite.
Oui, chaque 2 semaines. Oui, ça, c'est vite, pareil. Fait que c'est pas la même chose. Fait que c'est pas aussi demandant.
Tu te ramassais à l'hôpital, le entubé puis tout ça, là?
Ben.
Tu voulais pas y aller
à l'hôpital? Moi, je voulais
pas
y aller à l'hôpital. Quand c'est arrivé, puis la seule raison pour laquelle j'ai été me faire tester, c'est pour avertir les personnes âgées que j'avais le COVID, parce qu'il y en a qui avaient le cancer, puis je livrais de la nourriture pour eux.
Ouais.
Puis là, moi, je voulais savoir pour eux. Mais quand j'étais là-bas, puis ils m'ont dit « tu l'as », puis j'avais la misère respirée, puis j'étais asthmatique, ils m'ont mis un tube là, pour l'oxygène, c'est ça que j'avais. J'étais pas entubé avec ventilateur. Puis quand ils m'ont donné les tubes à oxygène, là, ils m'ont dit, puis là, j'étais là, puis là, j'attendais de voir qu'est-ce qu'elle allait me donner peut-être. Des antibiotiques pour pouvoir m'en aller. Puis là, finalement, ils m'ont dit, pourquoi t'amènes à l'hôpital à Charlemagne? Puis là, j'étais là, pourquoi? Ils disaient, il faut qu'on garde un petit peu sur les tubes. Puis là, j'étais là, pourquoi? Puis ah, pour que ta respiration revienne genre à 100%, tu sais, ton oxygène. Puis là, ben finalement, ils amènent un lit d'hôpital, ils me couchent sur un lit, puis m'amènent dans une ambulance. Pourquoi une ambulance? Gardez-les pour les gens. Ils disent, non, c'est la procédure. Là, je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis dans une ambulance, ils me couchent sur un lit, puis je m'en vais à Charlemagne, dans une chambre qui avait 2 autres personnes âgées qui, eux, étaient en train de mourir, qui ça allait vraiment pas bien. On était 3 dans la chambre.
Ah, ouais.
Puis eux autres, à chaque 30 minutes, je les entendais chialer, tu sais, ils avaient mal, puis ils souffraient vraiment, là.
Fait que tu comprenais pas pourquoi t'étais là?
Ben, j'étais dans la chambre avec mon oxygène, je faisais des push-ups, je bougeais, j'étais actif, j'étais... Parce que, tu sais, quand on est malade, c'est super important. Si t'es actif, ton corps va essayer de s'en débarrasser le plus vite possible. Mm. Puis même, j'en ai parlé avec le docteur Vadeboncoeur, je vous l'avais dit, qui disait que quand t'es actif, ça l'aide à se débarrasser. Fait que moi, je bougeais. Puis les autres me regardaient, puis t'es là, c'est qui ce fou-là? Il n'y a aucune déchuquée, tu sais. Puis moi, j'étais actif dans la chambre, puis je suis super actif. Je peux pas rester assis, couché, à regarder la télé. Fait que je restais actif. J'ai pris des produits naturels que personne n'a dit un mot, qui me regardait faire, personne ne disait rien. Puis on dit, tu vas être là pendant 2 semaines, puis après 2 jours. Tout allait bien. Puis on dit, ah, tu peux finir le confinement à la maison.
Je pensais que tu l'avais eu super fort, moi.
Ouais, les 2 premiers jours, oui. Les 2 premiers jours, c'était fort parce que j'avais de la fièvre. Fait qu'ils me donnaient des pilules pour de la fièvre, puis tout ça, les 2 premiers jours. Mais je bougeais, j'étais actif quand même.
T'as pas mal filé. Tu l'avais fort à cause
c'est
de
juste,
la fièvre.
J'avais juste de la misère à respirer pour les 2 premiers jours, puis je faisais de la fièvre. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait 2 choses. Pendant que je faisais de la fièvre, j'avais de la misère à respirer, je faisais des exercices de respiration.
Ça, c'est fascinant quand même.
Oui, je faisais ça. Puis ça, l'exercice de respiration, ça renforçait ton système immunitaire. Un entraîneur privé, Paul Gagné, on faisait ça en ligne, puis il y a des gens qui joignaient à nous pour en faire. Oui, je faisais des Facebook Live constamment.
Mais as-tu le feeling que, mettons, si tu l'avais aujourd'hui, maintenant qu'ils capotent un peu moins, mais qu'ils savent mieux nous soigner dans les hôpitaux, qu'ils iraient plus doucement?
Oui, mais...
Là, ils sont allés vite parce qu'ils voulaient pas prendre de chance avec
toi. Soigner. Ils m'ont donné l'oxygène, mais si je n'aurais pas eu, j'aurais été chez nous en confinement, j'aurais été correct.
Okay.
Les 2 premiers,
ça, j'avais pas de la besoin. Fièvre.
J'aurais été, ça a juste accéléré, j'imagine, mais sans ça, J'ai fini le confinement chez nous. Écoute, deux jours après, je retourne chez nous. Puis cinq jours après, je fais des Facebook likes en courant sur mon tapis roulant.
Incroyable.
Tu sais, puis j'étais à 275 livres, là, puis je courais, là, je m'entraîne pour un marathon. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui... Mais moi, je pense que quand t'as peur de quelque chose...
Il y a des gens qui quoi, Georges?
Il y a des gens qui ont tellement peur de tout ce qui est perpétuel à la télé que quand ils l'attrapent, ça les attaque plus fort parce qu'ils ont peur. Puis quand t'as peur, quand t'as quelque chose comme ça, ben ça te frappe plus fort.
Ben, mais c'est parce que toi, t'es en forme.
Oui, mais c'est pas juste ça. C'est ton état, c'est aussi ton état d'esprit. L'état d'esprit, quand t'as quelque chose, c'est l'affaire la plus, le mental, c'est l'affaire la plus importante quand t'attrapes de quoi. Si t'écoutes tout ce qu'il dit à la télé, puis t'as peur de tout, tu dis que tu vas mourir, puis tu pourras plus. Quand ça te frappe, tu restes couché, tu bouges plus. Là, c'est sûr que ça va rester dans ton système plus longtemps. Quand tu bouges plus, c'est la meilleure affaire qu'un virus veut. Tu bouges pas, tu restes comme ça, tu restes acide, tu fais rien. Mais quand tu bouges, t'es actif. Tu prends des fruits, des légumes, tu sais, tu bouges, puis peut-être tu t'alimentes bien entendu. Ben, c'est sûr que les patates pilées qu'ils faisaient au micro-ondes avec la poudre.
Ben, ça devait être dégueulasse.
Mais je mangeais, non, je mangeais rien.
Ben oui.
Le monde me regardait. Puis c'est fou parce que quand j'ai fait un Facebook Live, j'ai dit, il n'y a pas de bouche, je peux rien manger ici. Les salades qu'ils me donnent à la COVID parce qu'elles étaient toutes moisies, tu sais. Les gens ont commencé à m'envoyer de la bouffe végane. Il y a tellement de bouffe qu'ils m'ont livré à l'hôpital, ben, qui ont mis une règle qu'on ne pouvait plus rien recevoir parce qu'ils passaient son temps à nettoyer ce que je recevais. C'est une job à temps plein. Là, j'avais plein de bouffe, là, c'était parfait.
Tu mets le doigt sur quelque chose que moi, j'ai jamais compris dans le système de santé, bien avant la COVID. Comment ça se fait que l'endroit où tu vas pour te faire soigner, puis c'est pas nouveau d'aujourd'hui qu'on apprend que, oh mon Dieu, l'alimentation a un rôle dans la santé. Comment ça se fait que l'endroit où on est censé te soigner, la bouffe, c'est de la marde?
Parce que ça coûte
rien. Ça n'a aucun sens.
Parce que je pense qu'il dépense.
S'il y a un endroit où la bouffe devrait être extraordinairement bonne et santé, c'est bien dans un
hôpital. Mais ça coûte cher.
Il dépense 2 $ par repas, pas plus que ça. C'est le budget. Non, mais c'est fou, mais tu sais, les patates pilées, pas d'omicron, c'est fou. Là, tu donnes ça au monde, mais ça coûte rien.
Te souviens-tu quand Gaétan Barrette avait changé les menus, puis avait fait un gros show au Palais des Congrès à Québec?
Il avait convoqué tous les journalistes
à goûter les nouveaux menus extraordinaires, puis tout ça. Puis là, lui-même était assis avec un plat de dégueulasserie, là, puis il mangeait, puis il était là, « Mmm! »
T'as l'impression que c'était la bouffe du chef gros lot de RBO.
Et tout bas, ouais, c'est ça, là, avec du castillon bien dégorgé. Puis les journalistes avaient mangé ça, puis c'était aussi dégueulasse qu'avant. Mais lui, il disait pas que c'était du... il disait pas que c'était du manger mou, il disait que c'était de la bouffe texturée.
Wow!
Présentement, là, d'après moi, si tu demandes à la majorité des infirmières, avez-vous du plaisir là, ou vous êtes sur le bord de quitter votre job? La majorité vont dire on est sur le bord de quitter votre
Comment
job.
Comment ça se fait qu'on est...
Fait que là, si, mettons qu'on laisse aller puis qu'on monte à 10 000 cas, il n'y aura peut-être pas plus de morts, mais il va y avoir du monde dans les hôpitaux.
Mais c'est ça.
Là, les infirmières vont faire OK, moi, acheter curry, chaque mon camp. Donc là, ils vont sacrer leur camp. Ils vont avoir encore moins de staff dans les hôpitaux. Ils vont sacrer leur camp. Moins de staff, ils vont sacrer leur camp. Moins de staff. C'est ça qu'ils veulent protéger.
C'est l'anarchie.
Mais je pense pas que c'est la vie de ma grand-mère qu'ils veulent protéger. C'est le système.
Mais comment ça se fait que le système de santé est aussi.
Mais là, il est trop tard pour le changer. On est là.
C'est bien.
Aujourd'hui, avec le système de santé qu'on a là, puis ils n'ont pas le choix de le protéger.
Ça en dit long sur notre système de santé que ça fait quelques hospitalisations de plus pour qu'ils soient sur le bord de péter.
Mais ça, je suis d'accord.
Mais toi, Jean-François, ta grosse affaire avec la COVID, c'est les jeunes qu'on a empêchés de faire du sport. Toi, ça t'a fait sortir, ça t'a fait grimper dans les rideaux, là.
Ben, en fait, ouais, grimper dans les rideaux.
Je parle
plus du premier confinement.
Oui.
Là, on est-tu en semi-confinement? Je pense que présentement, il y a moyen
Confinement soft.
Il y a moyen de bouger, là. Présentement, ouais. En plus, il fait encore beau, là. Sérieusement, si tu bouges pas, c'est parce que tu veux pas. Mm. Mais dans le premier confinement, j'en revenais pas que, tu sais, les parcs, était, vous vous souvenez, là, il y avait du teint jaune sur les parcs.
Ben oui.
Puis ce qui m'avait fait, tu sais, puis moi, j'étais avec deux enfants à la maison, là, puis ma sœur, tu sais, quand t'as des enfants, tu te tiens avec du monde qui a des enfants. Là. Fait que je faisais juste ça, maintenir avec des enfants, mais parler avec des gens qui ont des enfants. Puis là, je me rendais compte à quel point personne ne pouvait rien faire. Puis là, cette journée-là, il y avait sorti qu'on pouvait aller faire du kayak à deux.
Du golf,
de l'équitation.
L'équitation!
Puis là, je pensais à... Tu sais, puis honnêtement, quand j'ai écrit le petit texte sur Facebook, c'était pas pour les miens. Moi, je voyais le printemps arriver, on a une piscine, un grand terrain, mon gars, un terrain de basket, un panier de basket. Ouais. On a un sol qui est
semi-fini. Donc, tu pensais aux autres.
je me disais, mais les autres, là, que dans, tu sais, des familles de 5 dans un 4,5, là, il y en a plein.
Tout le monde a un cheval ou un terrain de golf.
Non, mais ouvrez le terrain de baseball. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, on allait au terrain de baseball. Deux jeunes qui se pitchent la balle, vous allez pas me faire croire que c'était dangereux.
Puis un ballon limite, de football.
Mettez un gardien à l'entrée, là, du terrain, si vous voulez être sûr que tout le monde respecte. Mais laissez bouger les jeunes dans des sports qui coûtent rien. Parce que moi, là, moi, je viens d'une famille classe très moyenne, là. S'il y avait sorti ça quand j'étais chez nous, ma mère aurait dit, ben non, j'étais juste sur le terrain, je t'inscris pas au golf, je t'achète pas un cheval. Tu sais, fait que je trouvais qu'on se compliquait la vie beaucoup.
Il y a seulement Charles-Édouard VII qui pouvait faire du sport, là, tu sais.
Ben, c'était trop ciblé.
Du polo aussi, je pense qu'il avait permis le polo.
Le polo,
aussi.
Ce genre d'affaires-là. Charles, je suis allé, proche de chez nous, il y a un terrain de basket, puis tu sais, c'est une belle surface, puis l'hiver, ils font des bandes, ça devient la petite patinoire du quartier.
Ah, c'est génial.
Fait que là, moi, j'ai un gars qui aime beaucoup jouer au hockey, mon fiston. Fait que là, j'ai fait bon.
Peut-être un futur Georges Larac.
Peut-être, mais il n'y aura sûrement pas la shape. Ça. Là, j'ai fait comment on ferait bien, tu sais, pour te faire bouger, te motiver. Fait qu'on a fait venir des rollerblades en ligne. Puis là, on a joué là parce que c'est une belle surface, c'est comme peinturé. Fait que ça glisse bien, puis tout ça. Fait que là, on est en train de jouer là. Moi, puis lui, on s'en est des cônes avec des puck biscuits, qu'ils appellent, là, des green puck. On se faisait des passes, tout ça. Il y a un policier qui est venu nous avertir.
T'es pas sérieux.
On n'avait pas le droit de jouer là parce que c'était un terrain de la ville. J'ai fait, mais dans la rue, je peux, c'est la piste cyclable, je peux, parce qu'on était en bulle famille. Tu sais, il avait enchaîné les paniers de basket là, avec des tie wraps, tu sais, pour être sûr qu'aucun jeune joue là-dedans.
C'était ridicule. Mais tu sais, en même temps, mais peut-être qu'il connaissait pas le virus, il savait pas c'était quoi, il freakait un peu trop, je sais pas.
Puis tu sais, faut se souvenir qu'à ce temps-là, là, il y avait beaucoup de cas à Montréal, mais moi, je me mettais à la place d'un jeune du Saguenay ou de l'Abitibi, qui avait les mêmes consignes que nous autres, alors qu'il y avait zéro cas là-bas. Ça, tu vois le terrain de soccer, là, t'as pas le droit d'y aller.
Tu manges vraiment ça?
Oui! Mais on avait prévenu qu'on mangeait du poulet.
C'est l'autre fois, j'ai pas vu ça, c'est pas ça.
Excusez-moi, il faut qu'on explique aux gens. C'est parce que Jean-François.
Ça fait longtemps, j'ai pas vu ça.
Ah, c'est mon Dieu, la réaction de Georges!
Mais c'est une poitrine de poulet, là. C'est pas rien de si extraordinaire.
Ça fait longtemps.
Je me souviens pas la dernière fois que je sais quelqu'un à côté. Parce que d'un restaurant, je vais même pas dans un resto qui a de la viande. Je vais juste dans un resto vegan.
Tu vas même pas dans les restos où il y a de la viande.
Attends, ça fait longtemps que t'as pas vu une cuisse de poulet.
Dans une poitrine.
Ouais, non, comme ça. Mais à la télé, j'en ai vu, mais je veux dire, quelqu'un à côté de moi qui mange du poulet comme ça.
Mais ça te fait rire, ça? Est-ce que ça te dégoûte? Est-ce que ça te dégoûte, Georges?
Non. Pour ton corps, oui, mais pour moi, non. Je suis capable de te regarder, puis, tu sais, regarder les hormones de croissance sont là-dedans que tu vas prendre, qui vont rester dans ton corps, dans ton intestin, qui vont te causer cancer, tout ça. Je suis capable de voir tout ça, mais c'est toi qui le manges. Mais c'est juste, ça fait drôle de voir ça à côté de moi demain. Ça fait tellement longtemps. J'ai comme fait le saut, désolé de ma réaction.
Non,
là, j'ai
non,
comme,
c'est correct, on reprendra l'autre conversation plus tard.
Hey, et toi, Jean-François? Vegan, j'ai dit oui, justement, ils m'ont dit ça va être du Saint-Hubert.
Non, mais pourquoi tout le monde serait vegan? Parce qu'il y en a un qui est vegan.
Non, je suis entièrement d'accord avec toi.
Ça, c'est comme, il y a 5 francophones autour de la table, il y en a un qui parle anglais, tout le monde se met à parler anglais.
Mais toi, tu vois ça,
c'est correct.
Tu vois ça, puis tu vois le futur cancer que Jean-François va avoir. Bon appétit, Jean-François.
Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que maintenant, là, quand je vois ça, c'est juste, ça fait juste réaliser combien il y a du monde qui sont moins conscientisés à l'éthique animale, à leur santé et l'environnement. Puis que, tu sais, je fais beaucoup de conférences là-dessus, puis comment qu'il faut que je continue à en faire quand je vois ça, parce que...
Mais pourquoi ça te choque?
Tu dis, quand tu vois des gens manger de la viande, ça, tu réalises à quel point il y a des gens qui sont caves.
Non, j'ai pas dit le mot cave. Non.
D'après moi, il a mangé un bout de temps de sa vie quand
même.
Oui,
mais j'ai pas dit cave. J'ai dit, ils ont besoin juste d'être plus éduqués sur ce qu'ils font. Non, mais.
C'est proche pareil.
Non,
mais être plus. C'est pas cave, t'es ignorant.
Non, j'ai pas dit le mot ignorant. J'ai dit plus éduqué sur le sujet.
Mais il est pas ignorant. Plus conscient.
Non, mais il y a des gens qui sont juste pas conscients, c'est juste ça. Ben, c'est pour ça que quand
Moi, ce que je trouve, parce que j'ai été végétarienne, Richard et moi, on a été végétariens pendant un bon petit moment, et moi, il y a une affaire qui me tombait sur les nerfs, c'est le sectarisme des gens qui étaient végétariens ou vegan. C'est comme une dictature. C'est comme it's either my way or no way. Ça me tombait beaucoup sur les nerfs.
Oui, mais moi, là, dans le passant, tous mes amis, ils mangent la viande. C'est correct, j'ai respect par rapport à
mais
ça.
Mais quand tu vas manger chez eux, est-ce que tu leur fais la morale?
Non, quand je vais manger chez eux, ils me font des affaires véganes.
Oui, mais quand eux mangent la viande dans leur assiette...
Non, quand je vais chez eux, ils m'aiment pas. Il n'y a aucun de mes amis, quand je vais chez eux, qui mange la viande dans son assiette.
T'es sérieux? Oui, parce que tu leur demandes ou par
non,
respect pour toi?
Par respect pour moi. Mais oublie pas que moi, je leur impose pas ça. Je leur dis pas, je viens pas si tu fais pas, mais c'est juste que tout le monde connaît mon côté extrême.
Ouais.
Comment que je suis. Quand je fais quelque chose, je fais 100%,
donc,
je le fais.
Tu reconnais que t'es extrême.
Oui, je reconnais que je suis extrême. Parfait. Mais sauf que, sur le végétalisme, tu sais, comme là, tu peux manger ça, puis je t'engueule pas, là, à cause de ça.
Ben, de toute façon, là, c'est ça que j'ai.
Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens,
je mangerai pas la peau si ça peut te faire plaisir.
Irais-tu jusqu'à dire que quelqu'un qui mange de la viande, sa peau, mais son haleine, ça sent la viande,
non,
puis elle dégage quelque chose.
Non, mais,
qui est...
non, mais les gens qui mangent de la viande, si tu fais du sport avec quelqu'un qui fait de la viande, ou tu fais l'amour avec quelqu'un qui mange de la viande, tu vas le sentir. Le porc de la peau, là, dans la sueur, dans tout, tu le sens.
Mais de toute façon, ça le dit,
l'odeur
le
corporelle,
port,
elle est complètement. Ouais, ben l'odeur corporelle. Ouais, tu sens. Ben l'odeur corporelle est complètement différente.
OK, je viens de faire une blague, Jean-François. Je pensais que tu allais la souligner, le porc de
ben
la
en,
peau.
En fait, je ne l'ai pas souligné volontairement.
Parce qu'elle est poche.
Dans ce temps-là, on a tous un ratio de bonnes blagues de moins bonnes. Je me suis dit, passe ça sous silence.
Bon,
fais comme
t'es
si
gentil,
rien
t'es gentil. Parce que moi, tu le sais, Richard va te le dire, chaque fois que je suis en présence d'un humoriste, je me sens obligée de faire des blagues. Et Richard va te le dire aussi, toutes mes blagues sont poches. Georges, c'est aussi que je me suis rappelé, Georges, à un moment donné, t'étais, quand je faisais une émission à ma TV, t'étais venu à mon émission, on parlait de sport. Et après l'émission, tout le monde allait manger au restaurant. Puis j'étais assise à côté de toi et j'ai commandé un plat de poisson. Et la façon dont tu m'as regardé, tu m'as parlé pendant toute la soirée, je me suis sentie tellement mal. Je me suis dit, tabarnou, je ne verrai pas ça une deuxième fois.
Mais, non, mais pas juste ça. On a fait un excellent documentaire ensemble
oui,
qui a sensibilisé
ben oui.
tellement les gens.
La face cachée de la viande.
Oui, ça, c'était incroyable, ça,
ça
là, comment
fait,
que
ça
les gens
rôle, ont
regardé
hein?
ça. Wow, il y a ouais. beaucoup de gens qui... Et ça a converti beaucoup de personnes vers le végétalisme, ce documentaire-là. Fait que c'est pour ça que...
Moi, je voulais l'essayer pendant... J'ai dit, je vais essayer ça un mois. Puis je l'ai été 3 ans. Mais écoute, j'ai craqué pour un barbecue. Je suis désolé, je peux pas... Mais tu dis, la vie est trop jeune.
Mais
la vie est trop courte. La vie est trop courte et il faut...
C'est pas je pense que c'est ça son argument, c'est qu'elle va être encore plus courte.
c'est ça
son argument.
Mais je respecte en passant, juste pour vous dire encore la façon dont tu me le dis, là, mais... Si je respectais pas, je serais pas mal tout seul parce que dans le milieu dans lequel j'étais, dans le hockey, j'étais le seul. Je suis le premier qui est sorti, qui était vegan.
Oui, puis t'avais demandé d'ailleurs quand il y avait des tables de nourriture pour les joueurs, t'avais comme ton bol de quinoa
ouais,
ou des
mais,
trucs
mais
comme ça.
Mais j'étais chanceux parce que le GM du Canadien dans ce temps-là, c'était Pierre Gauthier, puis il était vegan lui aussi.
Hein?
Ouais, fait que à cause de ça, ben la moitié des menus dans la chambre, dans l'avion, tout, c'était vegan. Il y avait
mais
des options vegan.
Tu vois d'ailleurs, t'étais vegan, tu mangeais pas de viande, t'étais T'étais un des joueurs de hockey les moins en forme.
Oui, t'étais faible.
En même temps, vous êtes conscient que la majorité du monde ne pourrait pas faire ça.
Pourquoi? Ils pourraient
pas faire
quoi?
Mais ça coûte cher, les trucs vegan.
Mais non, ça coûte... Quel
des légumineuses.
Quel truc coûte cher?
Mais manger des fruits, des légumes... Honnêtement, des fruits, des légumes, c'est pas achetable dans les épiceries. Là. C'est beaucoup moins cher d'acheter 10 poitrines de poulet... que de t'acheter des fruits et légumes pour la semaine. Des fruits et des légumes. Moi, j'essaie à la maison de bien manger, puis je calcule,
mais,
je gagne bien ma vie. Puis des fois, je suis comme, tabarouette!
Qu'est-ce qui coûte
à
le
part
plus
les bananes, il n'y a rien qui coûte pas cher.
Qu'est-ce qui coûte le plus cher à l'épicerie?
La viande.
Ben, la viande, honnêtement.
Ben, tu sais, de la viande rouge, ça coûte très cher.
La viande, les produits laitiers, puis le fromage.
Le poulet, c'est ce qui coûte le plus cher.
Allez vous acheter des salades, puis des tomates, puis des concombres, présentement, vous allez faire un méchant saut à quel
ça,
point
là,
c'est
que
cher.
Que tu sois vegan ou pas, t'es supposé manger des légumes puis des fruits.
Je fais juste dire que quand... Moi, j'en achète pareil, là, Georges. Mais la famille qui n'a pas les moyens, à un moment donné, elle fait, bon, là ou bien j'achète un corso de tomates, mais d'après moi, à 10 heures, tout le monde va avoir faim si on soupe avec des tomates puis de la salade.
Non, mais ça dépend.
Ou j'achète quelque chose qui va soutenir. Tu comprends
ce que
je veux dire?
Le corso de tomates que tu viens de dire, si tu achètes des légumineuses, si tu fais cuire des légumineuses, savais-tu qu'un sac de légumineuses, ça ne coûte à rien?
Ouais,
c'est bien moins
les
cher que,
la clé, c'est
que
les légumineuses.
D'acheter des
pâtes,
ces affaires-là. Puis si tu fais. Non, mais je veux dire, légumineuses, c'est une option, mais des noix, il y a tellement de choses.
Mais des noix, ça coûte cher.
Non, mais ça, encore une fois, ça dépend
quelle sorte. Des noix, achetez-vous un sac de noix, là.
Ça dépend quelle sorte t'achètes, ça dépend de plein de choses, mais je veux dire, je te dis, si tu viens faire l'épicerie avec moi, là, tu serais étonné.
Du riz puis des pois chiches, ça coûte pas cher, Jean-François, honnêtement.
Tu serais étonné de voir mon épicerie, elle me coûte moins cher que la tienne. Puis elle dure plus longtemps que la
tienne. Est-ce qu'elle coûte moins cher que celle de François Lambert? Parce que lui, il est capable de faire l'épicerie pour une famille 75 par semaine.
Ça, je sais pas par exemple.
Les enfants, on mange des pois chiches pour souper. Hein,
ça passe. Mais le lendemain, il y a encore des pois chiches. À un moment donné, ils vont se tanner.
Non, mais toi, tes enfants, évidemment, tes jumeaux, ils sont évidemment vegan.
Ils sont vegan avec moi, mais pas avec leur mère.
OK.
La mère, puis je ne leur impose pas. Moi, je dis à mes enfants...
Les regardes-tu comme moi?
Quand ils sont avec moi...
Ils mangent leur poulet ou...
Non, mais l'affaire, c'est que... La seule raison pour laquelle avec moi, ils mangent pas de viande, c'est que ils me regardent puis ils font comme moi puis ils sont habitués.
Ouais.
Puis ça leur dérange pas. Je leur dis toujours, si vous voulez manger de la viande, je vais respecter, mais avec moi, ils le font pas. Avec la mère, ils le font.
OK.
Puis je leur ai dit, ça va être à vous-même de prendre votre décision. En fait, c'est pour ça que je te dis que je suis pas intense au point de vue que je leur impose. Je leur dis, alors, ce que vous savez, votre corps va assimiler ce que vous mangez super vite, mais quand vous allez plus vieux, vous ferez votre choix comme que j'ai fait mon choix, mais je vous l'impose pas. Mm-hmm. Parce que quand on est vegan, on mange une bien plus grosse variété d'aliments que les gens qui ne sont pas. Tu sais, la perception que ce qu'ils viennent de dire, Jean-François, ce que tu as dit tantôt, que manger juste des pois chiches, des fruits, des légumes, il y a plein de gens qui pensent que c'est ça qu'on mange, mais c'est pas vrai.
Mais il y a des gens qui disent, ça me donne de la force manger de la viande. C'est pour ça que je riais tantôt de façon ironique. Je disais que tu étais le joueur de hockey le moins en forme, ce qui est totalement faux, parce que dans le documentaire qui est produit par Julie Snyder et qui était animé par toi, Sophie, justement, tu passais des tests physiques et tout ça.
T'étais
en super top shape. Oui, là.
Oui, parce que dans le documentaire, ce qui est incroyable, c'est que quand j'ai fait le test sur le Bessic, les watts que je poussais, le docteur Gineau, qui est très respecté au Québec, il a dit que c'était les mêmes watts que le monde qui faisait le Tour de France. Ça, désolé, mais Crosby et tous les joueurs innocents que tu parles, que tu connais qui mangent la viande, ne pourraient pas pousser comme ça. C'est ça que je veux dire, c'est que...
Et peut-être que t'es un être exceptionnel aussi, là.
Ben, oui, mais c'est sûr que l'alimentation
la force de la nature.
Ben, oui, c'est sûr qu'il y a ça aussi.
C'est
une combinaison de choses, c'est ça.
Tu mangerais du plastique puis tu seras en forme.
Mais je me suis pas entraîné pour ça.
Mettons que moi, là, tu me fais passer un test à soir, puis là, tu dis dans 4 mois, tu vas refaire un test. En mangeant de la viande, mais à soir, c'est pas le poulet là, que moi je trouve dommageable. C'est les frites que j'ai là, la sauce que j'ai là, puis le verre de vin. Fait que c'est sûr que si pendant 4 mois, je fais bon, je vais tester. Poulet, mais cuit à vapeur avec de la salade, des légumes, puis de l'eau. Probablement que dans 4 mois, mon test va être pas mal plus beau.
C'est encore fait que, une fois un très bon argument.
Fait que c'est ça que je veux dire. C'est sûr que si tu as tout changé dans ta vie, oui, il y a sûrement la bouffe, puis je crois que ce qu'on met dans notre corps, c'est notre énergie, notre carburant. Là, ça, je suis full avec toi là-dedans. Mais c'est sûr que si tu as tout changé le reste, je sais pas là, comment tu étais, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Si moi, je dors 6 heures par nuit, puis que ça me prend 8, puis que là, je sais que... Je vais avoir un autre test, puis je me mets à dormir 8 pour faire attention à moi.
Tu vas être en meilleure forme.
Moi, mais je n'avoue
pas que tu quand tu es un athlète, tu dors toujours normalement, tu sais, 8 heures, parce que c'est ça que tu fais. Mais pour la bouffe, il y a une chose que tu dis qui est vraie, c'est que les gens qui mangent la viande, si tu manges plus de légumes que de viande, si ton assiette est plus alcaline qu'acidique, déjà là, tu es plus avancé.
Mais dis ça.
Parce que le problème, c'est que les gens mangent trop de viande, ils ne mangent pas assez de légumes avec ce qu'ils mangent. Puis si la combinaison de ton assiette est plus acide, là, tu creuses un trou dans ton corps. C'est ça la différence. Fait que c'est pour ça que, juste là, quand je parle à mes amis, ils sont pas véganes, mais ils mangent plus de légumes puis tout ça.
Parce que tu les as conscientisés.
Oui, par rapport à ça. Puis ils mangent moins de viande parce que tu as besoin juste de 5 onces de viande par jour pour ton apport de protéines. On s'entend que les gens qui mangent du bacon, des saucisses le déjeuner, la viande le dîner, le souper, tu manges trop de viande.
Mais non, c'est sûr.
Puis là,
il y a des gens qui mangent de la viande trois fois par jour.
Je défends la viande. Tu sais, moi,
Pauvre-toi, Jean-François!
Mon fiston nous a beaucoup. Il y a eu une phase même végétarien, vegan.
Il y a quel âge?
Il y a 15 ans. Lui, il est full, là, son corps. Il veut s'en aller nutritionniste ou kinésiologue ou je sais pas quoi. Fait qu'il nous a amené beaucoup à mieux manger. On achète beaucoup plus de fruits, de légumes. On mange moins de viande. On y va avec plein d'autres choses. Tu vois, ce soir, je suis pas à la maison, mais c'était du saumon avec des fenouilles, tu sais, on n'est pas... on dirait que j'étais un chasseur à m'écouter parler, là, mais c'est juste parce que là, on...
Tu veux te battre avec Mike Tyson?
Suicidaire? Je vais te dire, parce qu'il est en phase terminale d'une maladie et c'est sa façon, de mourir dans la dignité, c'est de mourir dans la reine contre Mike Tyson. Écoute, il va faire une bouchée de toi, il va t'en crisser une, ça va durer 30 secondes, non, t'as pas peur?
Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait toute ma vie pour travailler? Je vendais des aspirateurs?
Ils se battaient.
C'était quoi ma job?
C'était le goon de la LNH.
Fait, vous avez vu une vidéo Mike Tyson, puis vous dites « Oh my God, qu'est-ce que je faisais? » Vous savez que j'ai pas de background de boxe. Toute ma vie que je vais walker, que j'ai pas fait de boxe pour m'entraîner, pour être capable de faire cette job-là pendant 15 ans. L'affaire, il faut comprendre, c'est que moi, c'est pas que je l'ai challengé, c'est que Mike Tyson a décidé de faire des tournées médiatiques autour du monde, des combats d'exhibition.
Mm-hmm. C'est quoi, il va se battre contre des kangourous, des nains, des pharamans?
Non, il va se battre contre des gens...
Des petites personnes.
Okay. Il va se battre contre des non-professionnels de la boxe, contre des célébrités, pour faire un coup d'argent. Lui, il va faire de l'argent avec ça. Puis, il y a des gens qui... Comme mon agent a fait un package pour l'inviter de venir à Montréal. Puis ça sera dans une carte de boxe, qu'on serait une sous-carte. Puis c'est un combat d'exhibition. Un combat d'exhibition, c'est 3 rondes de 2 minutes. Okay. C'est ça que c'est.
OK, 3 rondes de 2 minutes.
Oui, un combat d'exhibition, c'est ça, parce qu'on n'a pas de... Mike Tyson, sa santé ne lui permet pas d'avoir une licence de pouvoir se battre à la boxe. Donc, il ne peut pas avoir de... Non, parce qu'il n'est pas assez en santé.
Il a quel âge, à peu près?
Pas loin de 55.
Okay. C'est difficile à avoir.
C'est santé, ça, c'est vieux, non, c'est l'âge que je vais avoir la semaine prochaine.
C'est très difficile à avoir.
Il peut pas avoir sa licence. C'est des rondes de 2 minutes qu'il peut faire avec un casque et des gants plus gros. Fait que moi, on parle de combat d'exhibition de 3 rondes de 2 minutes.
Ah ouais, OK.
Et comment ça marche, ces combats-là? C'est que tu as un arbitre qui est là.
OK.
Puis quand tu fais une combinaison de 4 coups, l'arbitre sépare. L'arbitre, il peut pas avoir de knock-out. Si le monde s'énerve, l'arbitre arrête le combat. C'est l'arbitre qui décide tout. Il n'y a pas de knock-out, il n'y a rien là-dedans. Okay. C'est tout sécuritaire.
Donc, c'est plate.
Ben, si les gens s'attendent à un knock-out, oui.
C'est un stunt.
C'est juste un stunt d'amener lui ici, puis qu'il y a des événements publics qui sont ici que les gens vont pouvoir le voir. Puis moi, c'est rattaché à une cause caritative. Je prends rien. Ça va à une cause caritative.
Ah.
Tyson, lui, prend un cachet qui va pour lui pour venir ici. Puis il y a des gens qui peuvent pouvoir
le
voir.
C'est quoi ta cause caritative? C'est Pita? Non, t'as pas choisi encore?
Non, non, c'est probablement un hôpital. Peut-être l'hôpital. Un hôpital pour enfants ici, le Shriners, ou quelque chose comme ça, que ça va être un hôpital qui est local, quelque chose qui est local ici.
OK.
Mais moi, ce serait ça ma cause. Fait que c'est quelque chose pour le fun, comme ça.
Mais toi,
c'est
pas quelque chose d'aussi
intense
dire...
que les gens. Tu sais, je sais que quand c'est sorti les nouvelles, les gens sont ils ont capoté, ils ont dit, oh my God, il va se faire. Non, c'est pas un vrai combat, là.
Il n'est pas aussi fort qu'il était aussi. Là.
Ah, non, mais il est en shape en tabac.
Non, mais il est en forme. Il est en forme, il est en shape, mais un combat d'exhibition, c'est pas une affaire de knocker l'autre.
Mais
c'est
la fois où il a mangé l'oreille, il a quand même arraché, mordu arraché l'oreille de son adversaire.
Il a fait ça parce qu'il perdait, puis il s'est dit.
Ben moi, c'est sûr, chaque fois que je perds, c'est ça que je fais.
Mais
lui,
dans un ring, à te faire taper dessus, tu ferais n'importe quoi.
Lui, il se faisait taper dessus.
C'est l'instinct de survie.
Il s'est dit, écoute, je vais me faire knocker. Ou c'est même faire disqualifier. Il a mordu l'oreille, il s'est fait disqualifier au lieu de se faire knocker parce que ça allait pas bien.
Ah.
Fait que, tu sais, je veux dire.
Donc, c'est un pissou, finalement.
Effectivement. Mais je doute pas que tu vas tenir ton bout 3 rounds, là. J'ai même pas peur pour toi, mais je vais te poser la question. Mettons dans un vrai combat, là. Mettons que.
J'aurais aucune chance.
C'est ça, hein?
J'aurais aucune chance dans un vrai combat.
Est-ce qu'il frappe dur, puis il y a une technique, puis.
C'est que c'est un ancien champion du monde, puis il y a un background de boxe.
C'est
moi,
ça.
J'en ai pas comme lui. Lui, il a vécu là-dessus depuis qu'il est jeune.
Oui.
Ouais.
Fait que je suis pas désillusionné au point de penser que je pourrais rivaliser avec un gamin, c'est un vrai combat.
Non, mais c'est parce que c'est un peu ça qui est sorti. Mais être bien honnête avec toi, j'ai lu, j'écoute 91.9, puis j'ai eu vraiment l'impression que tu le challengeais, puis tu pensais que tu pouvais tenir ton bout, j'ai fait.
Non, j'ai jamais.
Georges, à cause de la technique, tu sais,
j'ai jamais pensé ça. Okay. Ce qui est arrivé, c'est que, vu que j'étais à la radio, tu sais, je dis comme au monde, j'ai dit, je vais monter l'intensité dans les trois. Parce que si tu montes l'intensité dans un combat d'exhibition, puis tu le pinces, là, il va couvrir la machine.
Ah, il va t'en.
Ah,
ouais, exactement.
Crisser.
Ouais, tu peux dire ça.
Non, mais
raison.
Ça. S'il fallait que tu l'atteignes, là, sur le bout du menton, il va voir rouge, puis.
T'as raison. Non, mais c'est vrai ce que tu dis.
Là, les pois chiches, tu vas y sortir par tous les bords du côté, il m'a dit de quoi, s'il se décide à faire ça, là.
Non, mais là-dessus, j'ai pas de
débat. Non, mais ça doit être une machine incroyable.
Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi. Je suis pas désillusionné de dire que je le battrais, là. C'est la seule affaire, mais tu sais, quand t'es à la radio, tu fais un show, puis tu parles de ça, mais en bout de ligne, tu sais, les gens qui s'attendent à une affaire spectaculaire, une affaire d'exhibition.
Moi, je vais vous conter de quoi. Vas-y. Souvenez-vous du show d'Éric Salvaille, ce soir, tout est permis. Il y avait un... Mais c'était bien fait, ce show-là, puis c'était divertissant, puis ça. Puis il y avait un jeu où est-ce qu'il nous posait des questions pendant qu'on était en train de faire d'autres choses. Je me souviens, Alex Perron faisait du judo, je pense, pendant que... Puis là, il fallait 9 fois 3, mais pendant que tu fais autre chose. Okay. Puis moi, quand j'ai fait ce show-là, je me battais contre David Lemieux avec des espèces de gros gants vraiment mous, un casque, puis tout. Puis là, je répondais à des questions. Là. C'est quoi la capitale de tel pays? Mais là, t'es concentré ailleurs, tu sais, puis ça. Mais lui, David Lemieux, il sait pas jouer.
Ah!
Et Puis il m'a, écoute, il m'a pas knocké, mais il m'a donné un coup de poing avec, je te dis, là, avec des gants en... Mais pour te prouver en à guimauve, quel point là. Ça frappe fort, là, des gants en guimauve, il m'a pogné, je suis tombé à terre, et quand je me suis relevé, tu sais, comme dans un film, là, puis que tu vois comme un
des
peu...
Étoiles. Ah, ouais.
C'est pas des étoiles, mais les spectateurs se mélangent, puis ils reviennent, là. Fait que là, c'est là que je me suis dit, OK, ces gars-là frappent.
C'est qu'ils sont non, pas capables d'y aller
vu,
à moitié.
Je l'ai vu à deux reprises, David Lemieux. Fort, là, j'étais là. Là. J'étais devant l'arène, là, devant le ring. Moi, c'est un de mes boxeurs préférés là, au Québec. Il est extraordinaire, ce gars-là.
Ah oui.
Il
est vraiment incroyable. Non, mais c'est-tu excusé après ça?
Il s'en est pas... honnêtement, je pense qu'il s'en est pas rendu compte. Je pense qu'il avait pas compris que c'était un jeu. Il m'aurait pas visé le visage. Je t'ai dit, il m'a pogné sur le visage. Ah. Je suis tombé à terre. Puis, wow! Là, je me suis relevé en riant. Comme, hop, là, Salvaire riait, tout le monde riait. C'est un peu ça le but du jeu, de me déstabiliser. Et là, lui, il continue à essayer de...
Il a continué quand il s'est relevé.
Mais essayer, tu sais, de me tenir à distance. Mais juste son petit jab sec, là. Il rentre son petit jab sec, là. Fait que j'imagine, David Lemieux, Mike Tyson, son jab, puis ça doit rentrer...
Ouais, mais... Non, mais David Lemieux contre Tyson, dans un vrai combat, David Lemieux gagne.
Présentement, c'est
à cause de l'âge. Non, à cause de l'âge. Mike Tyson est trop vieux pour
manger. Et pourtant, Mike Tyson est vegan.
Oui, mais il y a 55 ans, avec la...
Oh, j'ai réussi à faire rire, Jean-François.
Tu vois, je t'ai dit tantôt, on a un ratio.
Bon.
Une manquée, une réussie. Ouais, mais... Une sur deux, c'est un excellent ratio.
Justement, résumons, là. Alors, toi, ta job, c'était d'aller sur la glace puis de péter des gueules, mais tu veux pas manger des œufs parce que c'est brutal pour les poules, c'est ça?
Parce que...
Si je comprends bien,
j'adore ton mot d'extrême. Non, mais attends, j'aurais pas
on s'est tous passé cette réflexion-là.
Non, mais c'est parfait. Je suis content que tu l'aies passé aussi.
Mais on s'est tous passé ça.
Le gars pète des gueules, mais il mange pas des œufs parce qu'il a pas les culs de poule.
OK, mais checkez bien ça.
C'est dur un peu.
OK, mais checkez bien ça. Puis j'adore que vous me demandez ça parce que je peux répondre vraiment à tout. Les gens contre qui je me battais faisaient des millions et étaient consentants. Mais la viande qu'on mange, est-ce que les animaux, vous pensez, se mettent en ligne pour être consentants d'aller à l'abattoir? Oui ou non?
Boum, c'est bon.
Ils font des millions pour ça?
Ouais, bon argument. Ah. Moi, j'aime ça.
Pour vrai, shootez-moi ce que vous voulez pour justifier le fait que vous mangez des cadavres animaux. Je vais vous répondre à ce que vous voulez. Let's go, je suis prêt, let's go. Tout ce que vous voulez, je vais répondre à tout.
OK, non,
mais... Je t'habitue à tous les jours.
OK, parfait. Hey, j'en ai une question pour toi.
On voit que tu as de l'expérience là-dedans.
J'en ai une question pour toi, puis tu sais, je pense que je connais un peu ta réponse, mais quand même, je vais te la poser quand même.
On va rire.
Puis juste pour dire, Sophie, là, tu disais, tu sais, Georges, c'est une force de la nature, là.
Oui. Je veux
dire, pour jouer au hockey à la grandeur et à la shape qu'il y a, c'est une exception. Là. Il y en a des gros dans la Ligue nationale, mais toi, Georges, t'étais. Je parle pas gros non, overweight, là, mais je veux dire, c'est rare des gars de ton gabarit sur deux lames dans la Ligue nationale.
Pas les hommes forts. Les hommes forts, non.
Je me battais contre aussi grand et gros que toi.
Il y a plein de monde que je me battais qui était bien plus gros que moi. Il y a un gars, Derek Bouga, qui est décédé justement. Il était 6 pieds 8, 275.
6 pieds 8.
Brushy était 6 pieds 3, 260.
C'est un géant, c'est le géant.
Non, j'ai rencontré Brushy, j'avais l'impression qu'il était moins.
Il était plus gros que moi.
Tu sais, toi, t'étais épais du torse et tout ça.
Brushy aussi.
Ah ouais.
Non, mais la majorité des hommes forts, il avait toute ma carrure.
OK. Mais là où je m'en allais, c'est parce que.
Donc, ouais, hey, let's go.
Non, mais moi, j'ai.
Let's go,
ah,
let's
non,
go.
Non, mais j'ai eu un échange la semaine passée avec. Enrico Ciccone,
okay.
à ma balado que j'ai ici, Avantage numérique, à propos des bagarres dans la Ligue junior majeure du Québec.
Okay.
Toi, tu es d'accord avec Enrico qu'il faut enlever ça et tout ça. Puis, dans la même semaine, j'ai vu ton combat contre Mike Tyson pour le plaisir de se taper sa margoulette.
Ouais.
Je trouvais que c'était un double message que tu envoyais aux jeunes de 15, 16, 17 ans. Tu me suis-tu?
Ouais,
puis je comprends là, que c'est pour une cause caritative, tout ça, puis toi, tu es un adulte. Mais c'est quand même un double message de je vais aller me battre pour le fun, puis mais vous autres, par exemple, battez-vous pas.
Mais t'as tout à fait raison.
Non, mais je vais te répondre à ça. Il y a deux choses là-dedans.
Ah, ça, je savais que t'allais me répondre.
Non, mais c'est.
Je t'écoute tous les jours en passant avec Gonzo, là. Fait que je connais le personnage, t'inquiète, là.
Un jeune qui se bat de 16 ans, qui n'a pas fini de se développer sa puberté, une blessure peut faire en sorte que t'affectes sa croissance, puis une blessure au cerveau peut faire en sorte que. C'est bien plus de dommages à un enfant qui n'a pas fini de grandir qu'un adulte.
Mais je comprends.
C'est une grosse différence.
Je comprends le message.
Puis en plus, c'est à point nu. Moi, on parle de quelqu'un qui a déjà grandi maturement. Moi, j'ai jamais eu de commotion. Avec des gants. Puis un combat d'exhibition, c'est des gants plus gros. Donc, la force de frappe n'est pas aussi grosse parce que c'est pas des gants de boxe. C'est des gants plus gros.
Mais le jeune de 15 ans qui t'écoute, là, il comprend pas les nuances.
Il a vu le titre. Georges Larac défie Mike Tyson. Georges Larac défend les jeunes non, mais, de se battre. Mais est-ce que tu comprends le non, message, mais, le double message? Oui, mais, parce que personne n'y l'a.
Mais oublie pas que...
Même ceux de Richard.
Mais oublie pas que les titres... Parce que pour moi, les titres...
Je
le
sais.
C'est des titres à la Richard. Richard, son show, c'est sensationnaliste.
Je sais.
Il en met plus gros, c'est non. parfait.
Je vais te poser la même question que j'ai posée à Enrico. Puis ça m'intéresse vraiment parce que moi, mon kid a 15 ans. Là, ouais. Et logiquement, il va se faire repêcher junior majeur puis il va jouer là. Fait que c'est un débat qui m'intéresse pour vrai. Là. Comment tu vas régler ça? On s'entend qu'à la base, là, quand ils ont inventé le hockey, il n'y a pas de bagarre. La raison pour laquelle les bagarres sont arrivées, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des vlimeux qui sont arrivés qui ont empêché les bons joueurs de jouer, les plus petits, l'intimidation, etc. OK?
Ben ça, c'est ton importation, mais c'est pas comme ça que c'est arrivé, mais vas-y.
OK, continue. Moi, j'ai eu le feeling que c'était ça.
OK, mais c'est pas comme ça, mais continue.
Là, il y en a presque plus de bagarres, puis je pense que quand il y en a maintenant, il y a moins de à mise en jeu, on s'entend, on drop, puis on se bat.
Il y en a
quand,
moins,
quand,
c'est
quand,
vrai.
Quand que ça arrive, c'est parce que là, il y en a un qui était écœuré de manger des coups, puis là, quelqu'un qui drop les gants.
Ben, il y a plein de raisons, mais ça peut être...
Mais je veux juste savoir comment tu vas... Parce que s'il y a plus de bagarres, qu'est-ce que tu vas faire avec les petits vlimeurs qui s'attaquent aux joueurs de talent? C'est ça ma question.
Il va toujours en avoir. Le bagarre.
Mais comment? Ah, il va toujours avoir des bagarres.
Oui.
Bon, d'abord, on est à la même place. Fin du débat. Mais moi, je pense pas que tu peux les enrayer. C'est ce que je disais.
Non, tu peux pas les enrayer à 100%. Pas à 100%. Non, mais pour les jeunes, oui, pour leur santé. Là, on parle d'adultes qu'on s'entend, qui sont développés physiquement. C'est pas la même chose.
Non, mais dans le junior majeur, mettons.
Ah, dans le junior majeur, ils vont les enlever. Éventuellement, ça sera plus là. Parce que toutes les ligues junior majeures au monde, à part dans les junior majeures canadiennes, il n'y en a pas de combat. En Europe, toutes les jeunes, ils se battent pas.
Ben non.
Mais la culture est différente.
Oui, la culture
est différente. C'est moins salaud. Mais quand il y a un geste salaud, c'est puni plus fort.
Mais la culture va être différente ici aussi.
Éventuellement, il faut changer la culture.
Est-ce que je peux vous poser une question de fille?
Mm-hmm. Ben oui.
OK? Le hockey, c'est un sport noble qui coule dans notre sang au Québec comme le sirop d'érable.
Merci.
Et la beauté du sport, c'est de se dépasser. Et si je me trompe pas, c'est d'aller mettre la petite patente noire dans le filet adverse.
La rondelle.
Se battre, là, c'est quoi le rapport avec le sport? En quoi c'est l'esprit sportif dans calisser une au gars en face? Je trouve que ça n'a rien à voir. Tu trouves pas que c'est une bonne question, Jean-François? Je trouve que ça n'a rien à voir avec le sport, avec la noblesse du hockey.
Ben, la preuve, c'est aux Olympiques, c'est tellement du beau hockey, puis aucune bagarre.
Ben oui, c'est vrai.
Canada, Suède, États-Unis, Finlande, il n'y a pas de bagarre là.
Hockey féminin, je vais juste poser une question. Hockey féminin, est-ce qu'il y a des batailles?
Non.
Non. Mais dans les séries, dans le hockey, il n'y a pratiquement pas de bagarre.
Ce sera tout, votre honneur.
Non, mais moi, mon point,
il
n'y
a pas de bataille dans le hockey féminin. Je pense que ça vient de clore la discussion.
On va commencer les batailles
et les
tournois de poche.
Attends, tiens bien le jeu de mots « poche ». Ils ne pourront pas se blesser les batailles dans les tournois de poche parce que les gars, pour se battre, sont proches.
Oh, ta-da-da-da-da.
Poche, hein?
Oh, on cherche ton ratio. On cherche ton ratio, Jean.
Tu es noir. Est-ce que le fait que tu sois super bâti, comment tu l'as appelé? T'as l'air de dire que t'es gros puis t'es grand.
J'ai dit que c'est une force de la nature.
Une force de la nature. Le fait que tu sois une force de la nature, est-ce que c'est pas aussi quelque chose que tu as développé quand tu étais petit, parce qu'à un moment donné, tu étais habité à Montréal, puis là, tu as déménagé à Sorel-Tracy, puis qu'à Sorel-Tracy, il y avait plus d'intimidation, puis de racisme, puis les gens te criaient des noms, que c'est pas aussi, tu as développé tes gros bras aussi pour te défendre?
Moi, c'était tout génétique naturelle. Je me suis jamais développé mes gros bras, j'ai jamais fait de poids, jamais rien fait.
T'es juste né naturel. Avec?
Oui, je suis né génétiquement comme ça. Puis oui, j'ai vécu du racisme quand j'étais jeune, mais je me battais pas, j'étais tout seul. Mes parents ne voulaient pas que je joue au hockey, fait que
tes je comprends ce que tu voulais pas que tu joues
non,
au hockey.
Non, ils voulaient pas parce qu'il y avait trop de racisme, puis ils disaient que c'est un environnement néfaste qui allait m'affecter.
Comment?
Les gens t'appelaient comment?
Les gens m'appellent nègre à tous les jours.
Nègre à tous les jours.
À tous les jours.
Quand tu joues au hockey ou avant?
Quand je joue au hockey. Dans les arénas, tout le monde m'appelle nègre tout le temps. À un point que si tu écoutais un match de hockey, tu me regardais jouer, tu pensais que c'était mon nom. C'était comme ça tous les jours. Mes parents y allaient plus parce que ils voulaient pas. Eux, ils voulaient pas que je joue, puis ils voulaient pas voir ça, parce qu'ils vont faire quoi? Ils vont se battre dans les estrades. Ils se sont dit, sais-tu quoi? Si tu veux y aller, vas-y tout seul.
Les gens criaient nègre!
Ils criaient nègre, plein d'affaires comme ça. Puis moi, j'avais 7 ans.
Fait quand tu as vu le débat.
Moi qui est mineur.
Quand tu as vu le débat récemment autour du mot nègre, justement.
Non, mais moi, ce qui m'a aidé, c'est que, à 10 ans, je suis tombé sur l'autobiographie de Jackie Robinson de la collection Groslier. La collection Groslier te montre une collection qui montre plein de, Benjamin Franklin,
ouais.
Joan Hart qui ont occupé des affaires incroyables, puis même il y en a une de Maurice Richard, puis Jackie Robinson, c'est un exemple de persévérance, il y a des images dedans. Puis lui, c'est le premier noir qui a joué au baseball.
Ouais.
Puis il explique
à Montréal. À Montréal.
Oui, alors qu'aux États-Unis, il voulait rien savoir
exactement.
De lui.
Puis lui, il explique dans ce livre-là comment il a utilisé le racisme comme motivation pour faire ça dans son sport. Quand j'ai lu son livre, j'ai dit, c'est vrai ça que je vais faire. Fait que quand les gens me traitaient de nègre, au lieu de me laisser affecter par ça, je disais, ce processus-là est normal, Jackie est passé par là, faut que je passe par là pour rendre l'Union nationale.
Wow.
C'est quand même fou quand t'as 10 ans, t'es un enfant, puis que tu dises que ce que je passe par est normal. C'est pas normal, aucun enfant devrait passer par là.
Mais
moi, c'est ce livre-là qui m'a aidé.
Ça t'a endurci?
Oui, ça m'a endurci, puis ça m'a aidé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la critique, ça me fait plus rien.
Mais tu braillais-tu des fois, là, tout seul, dans ta chambre?
Oui, mais tout seul, parce que si mes parents voyaient parce que mes parents m'ont dit, OK, tu veux jouer au hockey, on t'amène plus, mais si on voit que ça t'affecte, on t'enlève. Fait que je braillais tout seul, parce que si mes parents me voyaient, les
ils
m'ont enlevé. Oui, exactement. Fait que je broyais en silence de temps en temps. Mais quand j'ai lu ce livre-là, avant 7 ans, je pleurais. À partir du moment que j'ai lu ce livre-là, quand les gens me traitaient, dans ma tête, je me disais, vous allez voir un jour, je vais être comme Jackie, je vais être personne nationale, je vais vous remercier de m'avoir dénigré toutes ces années-là parce que vous m'avez donné la force nécessaire pour me rendre là. Puis quand j'ai personne nationale, j'ai remercié mes dénigreurs.
Mais qu'est-ce que tu penses de ces gens-là? Pourquoi ils disaient nègre?
C'est pour te dénigrer puis t'abaisser.
Ouais, pour me dénigrer puis tout ça. Puis à Sorel, on était la seule famille noire. T'sais, à Sorel Tracy. Tu sais, je dis souvent à mon père, pourquoi on est allé vivre à Sorel Tracy de toutes les places? Pourquoi? Puis c'est parce que dans le temps, je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80, les immigrants, on avait besoin des travailleurs au Québec.
Tes parents sont arrivés
d'Haïti. Ouais, sont arrivés d'Haïti, puis on venait du monde d'Haïti parce qu'il n'y a pas de travailleurs au Québec. Puis c'est comme ça qu'ils sont venus travailler. Ils faisaient sponsorer leurs frères, leurs sœurs qui venaient pour pouvoir travailler. Puis c'est comme ça que c'est arrivé, les premiers immigrants qui sont arrivés ici. Puis là, mon père était là, Sorel Tracy, il était ingénieur, travaillait au pôle métallique. Pire place qu'il a choisi pour vivre, qui a endurci mon caractère, mais c'était... Quand on a redéménagé à Montréal par la suite, c'était moins pire, mais c'était
l'enfer. Parce qu'en plus, dans ces années-là, le hockey, c'était à Sorel. Il était réputé pour être violent, par rapport à ça. Les éperviers, ça se tapait sa gueule en tas.
C'était violent, puis c'était très raciste, c'était très villageois. Ouais. Puis très...
J'en doute pas.
Tout bel exemple, je vais vous donner.
OK, j'adore.
Ça, c'est malade, là. Vous avez capoté. Quand j'étais jeune, j'étais pro sport, parce que j'étais hyperactif, je faisais tous les sports. Mon père m'obligeait à chaque semaine de lire un livre. Il me faisait faire le résumé pour s'assurer que, oui, je faisais beaucoup de sport, mais que je continue mon développement
entre culturel. Entre les deux
oreilles. Exactement. Puis j'étais obligé. Le vendredi, avant de pouvoir sortir avec mes amis, mon père, il donnait moi le livre. Puis après ça, mon père, il faisait le livre, il posait des questions sur le livre. Pour être sûr, j'ai lu au complet, puis il disait, OK, tu peux aller jouer. Fait que pendant toute la semaine, j'écoutais jamais la télé, il fallait que je lise un livre.
Wow.
Parce que pour lui, l'éducation, quand il est arrivé d'Haïti, quand je disais que j'allais dans l'instant, il disait non, l'éducation. Puis quand tu dis lire, aujourd'hui, les enfants sont trop devant la télé, pas assez de trop des jeux vidéo, ils lisent pas assez. Dans le temps, on lisait tout.
Mais
avec l'Internet, tout s'est rendu du poison.
Jean-François, tu parles souvent de sport-études, puis à un moment donné, je parlais de ça avec Gilles Proulx, qui est un homme d'une autre génération. Puis il dit, c'est sûr que si on laisse rentrer des ignorants, des imbéciles dans les universités juste parce qu'ils sont bons dans le sport, puis tout ça. Peut-être avant, c'était le même, mais maintenant, on leur demande, ces gens-là,
d'avoir des bons résultats.
Ouais,
scolaires.
Moins,
c'est pas, c'est pas tout des bons sports-études. On va se dire les vraies affaires. Il y a quelques structures que moi, je pourrais te nommer. Les structures, c'est les... Mettons comme moi, Nathan était à Demortagne, à Boucherville. Puis là-bas, c'est pas négociable. Le sport-études est un privilège. Le hockey, là, c'est un privilège dans
ta patente.
C'est comme le crémage sur le gâteau.
Bonnes notes et bon comportement. Moi, j'ai vu des kids se faire kicker out de l'équipe parce qu'il n'y avait pas des bons comportements. J'applaudis ça, puis ça a fait en sorte, probablement, qu'il y a des jeunes qui sont encore sur les bancs d'école puis qui se sont forcés à avoir des bonnes notes pour pouvoir poursuivre leur sport. Mais il y a quand même des exceptions des fois. Là, fait que Gilles Proulx pas totalement tard. Ou lui est bon... Il y a 50, il y a un comportement de marde, mais il est bon. Ça arrive encore malheureusement. Mais moi, je trouve quand c'est bien géré, puis moi, je trouve que le travail qu'ils ont fait avec Nathan pour le faire devenir un individu et non pas un joueur de hockey. Le but, c'est de faire des jeunes hommes.
Des citoyens.
Moi, le sport est
c'est bon. Là,
quand c'est bien géré, je crois à ça.
C'est ça que le sport est un moyen de faire de toi un meilleur individu et non le sport une fin en soi. Là.
Non. Le sport et l'étude, il faut que ça y aille ensemble.
C'est génial, ça.
On parlait de mots qui peuvent choquer, blablabla. Bon, quand tu étais dans les mecs comiques,
Il était dans les Malcolmés.
Genre, j'ai pas connu ça. Il était avec Alex Perry. Il était à Edmonton dans ce temps-là.
C'est quoi les Malcolmés?
Les Malcolmés, c'est un groupe d'humour que j'avais de 96 à 2006.
Moi, je te connais avec la guerre des clans.
Ouais. Ah,
c'est ça. Avec, ça, avant la guerre des clans.
Mais avant la guerre des clans, j'étais dans un groupe.
J'étais avec Alex Perron et
Louis Morissette.
Louis Morissette. Okay. Bon. Raconte le gang qu'il avait fait sur Jean-Paul II.
OK. Bon. Quand t'étais dans les mecs comiques, à l'époque, on avait le droit de faire des blagues sur la religion. Parce que maintenant, on n'a plus le droit de faire des blagues sur la religion. En tout cas, sur certaines religions.
Il y a tellement de choses sur lesquelles on avait le droit de faire des gags qu'on n'a plus le droit.
Mais justement, tu vas nous en parler.
RBO, les cyniques, là, tu sais, sont descendants. Hein? Oh là
vraiment.
Là.
Et donc, à un moment donné, Louis Morissette fait un curé.
Ouais.
Et toi, t'es le bedeau.
Ouais. J'étais un ado bedeau.
Un ado bedeau. Et là, tu fais des blagues poche. Et à un moment donné, tu demandes à Louis Morissette,
mais
c'est
pas
quoi?
Poche,
ah! Non, mais en tout cas, Louis Morissette les trouvait poches. Et tu demandes à Louis Morissette, au curé, c'est qui la, comment elle s'appelle la sœur de Jean-Paul II? Ben, elle s'appelle Elisabeth II. Et après ça, tu dis, comment s'appelle le cousin japonais de Jean-Paul II? Et la réponse, c'est Jaune II.
Ah, ouais, hein?
Et là, je me disais, j'écoutais ça aujourd'hui, et je me disais, je me demande si Jean-François ferait la même blague aujourd'hui.
Jaune 2.
Ben, je pense que oui.
Oui?
Mais ça, c'était juste un jeu de mots. Deux.
Oui, je la comprends, le
jeu
de mots.
Parce que dans le fond,
non,
là,
mais jaune.
Ouais, non, mais il faut revenir
T'aurais
dans le contexte.
T'aurais pas peur de faire lancer les tomates?
Non, non, non. Faut revenir dans le contexte. Ce numéro-là, je me souviens, c'est le premier numéro qu'on a fait au festival Juste pour rire. Puis ça a été mon premier standing ovation.
Non, mais ça ne choque pas, nous autres. Là.
Moi, mais je vais expliquer le contexte. C'est que drôle, dans le fond, on disait l'Église est en déclin.
Ouais.
Comment ferait-il pour ramener les jeunes? Fait que moi, dans le fond, j'étais un jeune, un yo, là, je me souviens, j'avais des grandes culottes, qui ne comprenaient pas la religion. Fait que, tu sais, je pense que ça pardonne par le fait que, pour moi, je vois juste deux. Tu comprends? Deux.
Là, non, mais tu pourrais plus faire ça aujourd'hui.
Mais moi, je pense que
tu penses que tu pourrais?
Je pense que oui.
Et crime. Pas sûr.
Et alors, pourquoi tu disais tout à l'heure qu'il y a plein de blagues que vous faisiez, que les cyniques faisaient et que RBO faisait qu'on pourrait plus faire aujourd'hui?
Mais. On est devenu vraiment fragile sur plein de sujets. T'sais, c'est correct, là. Tout le monde a la parole maintenant. Mm-hmm. Tout le monde a un Facebook. C'est facile, là, si t'es attaqué dans quelque chose de partir. Puis là, tu vas trouver du monde. T'sais, mais t'sais, nous, on a été un peu méchants, là, mais pas tant que ça. Mais si RBO, là, ça avait pas de bon sens. Mm-hmm. Là, il riait de la religion, des gros, des femmes. Des Noirs,
écoute, ils ont fait un sketch
de tout, là.
Anti-Palestine.
Non, attends, ils ont fait un sketch sur les Jeux Olympiques gays, et c'était le lancer du javelot, puis les gays baissaient leurs culottes, puis recevaient le javelot dans le cul.
Ouais,
et j'avais,
ça,
avant hier, je parlais à André Duchamp, est-ce que tu le referais et tu sens aucun problème?
Je le referais.
Non. Peut-être que ce ne sera pas diffusé, mais dis-moi.
Il n'y a pas un épisode qui mettrait
ça. Non, mais ça n'a pas de sens.
Mais
ça.
moi.
Attends, ce sketch-là avait été félicité par la communauté gay parce qu'il parlait des jeux gays, puis il dit les gays peuvent rire d'eux-mêmes.
Mais
là.
C'est en plein ça, Richard. Moi, j'ai travaillé avec Alex Perron.
Oui.
Puis le jeune, le fif et le macho, là.
Ben oui, je me rappelle.
Aujourd'hui, on peut même plus s'appeler comme ça.
Alex Perron, il arrivait sur scène en disant « J'espère que vous aurez compris que le fif, c'est moi.
Ouais. »
Si jamais vous ne le voyez pas, c'est parce que vous êtes aveugle.
Mais on pourrait même plus s'appeler comme ça. Mais moi, je me souviens...
Non, parce qu'il y avait le jeune toi, macho Lou Morissette et le fif.
C'est ça.
Oui, c'est inacceptable.
Mais en 95, quand même. Tu trouves ça inacceptable de dire le fif?
Même si Alex, il dit qu'il l'accepte, je trouve que c'est respectueux envers.
Moi, je vais te dire le point d'Alex. Le point d'Alex, c'est le jour où on va être capable de rire de nous-mêmes, sans être offusqué, ça va vouloir dire qu'on est vraiment intégré.
Exactement.
On est vraiment one of the... Tu comprends?
Tu fais partie du groupe.
À partir du moment où je suis capable de rire de mes petits travers, de comment je suis, ça veut dire que il n'y en a plus de différence.
Oui.
Si j'ai pas le droit d'en rire, c'est parce qu'il y a une différence. Je suis pas vraiment...
Oui, mais Jeff, dis ça, là, pensez deux secondes. C'est pas Alex le problème. Le problème, c'est l'extérieur d'Alex. La société, encore une fois, est beaucoup trop homophobe. Qu'Alex rit de lui-même ou pas, ça change rien que la perception des gens de l'extérieur, c'est pas bonne. Si lui, il s'en va publiquement puis il dit des choses de même, les mondes vont rire de lui parce que la société est encore trop en arrière.
Non, mais on dit la même chose. Dans le fond, Alex, ce qu'il dit, c'est le jour où la société va être arrivée là où on veut qu'elle soit, on va être capable de rire de ça.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que lui, quand t'agis de cette façon-là, tu montres pas que le problème est sérieux quand même. Je veux dire, le problème, justement, c'est la perception, comment les gens réagissent par rapport aux gens qui sont homosexuels.
Mais moi, je pense, tu sais, nous, là, et puis, là, je vais remonter, là. Moi, je me souviens, là, on commençait à faire des shows, je te dirais, les 15 premières minutes, dans bien des villes, bien des salles, puis là, on remonte en 98, 99, ouais. Quand on faisait des shows. Les jokes d'Alex, les 15 premières minutes, là.
Ça tombait à plat.
Les gens, c'est comme, non, lui, je rirais pas de ses affaires. La tapette, là, je rirais pas de ses affaires.
Il y avait un malaise.
Il y avait un, moi, je rentrais, Louis rentrait.
Non, il y avait un malaise.
Puis les mêmes jokes qu'Alex faisait, mettons, à Montréal, où c'était déjà comme plus avancé. Ici, ça riait. Dans la région, ça riait pas. Et Alex est un être infiniment charmant qui charme tout le monde dans la vie. Tu peux pas rire avec Alex. Puis là, au fur et à mesure que la soirée avançait, là, tu sentais qu'il gagnait du terrain. Puis à la fin, c'était probablement lui le plus drôle. Puis je vais te donner l'exemple de mon père, là, tu sais. Puis mon père, là, il en revenait pas que je travaille avec un gay, là. Puis non seulement je travaillais avec un gay, mais j'habitais dans le même bloc. Moi, puis Alex, on était de même, là. Puis à un moment donné, il est venu chez nous après un show. Je sais pas trop. Moi, j'avais un char, Alex n'avait pas. Puis là, il est venu chez nous. Là, c'était la grosse affaire. Alex était chez nous. Puis le lendemain, on rentrait le bois. Chez nous, on rentrait le bois. Puis là, Alex, je vais vous aider. Puis là, mon père a fait, ben non. Comme, ben non.
Ah, t'es gay, t'es pas capable de transporter du bois.
Travailler physiquement de même. Là, Alex nous a aidés. Puis Alex, c'était Alex, vous le connaissez un peu, il fait des jokes tout le temps. Maintenant, mon père, là, il l'aime. Donc, il a fait à sa façon. Puis il y en a, je sais, pendant qu'on faisait mes comics, il était pas d'accord avec le fait qu'il se fasse appeler le FIF, tu sais, mais il a fait avancer pour moi la cause, là. Des pas et des pas. Non,
mais j'ai dit qu'au début, quand vous avez commencé, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord que le show s'appelle le FIF, le jeune et le macho.
Et nous autres, on a été pris dans toute une affaire là, de. Vous vous souvenez quand Daniel Pinard est sorti? Là?
Ben oui.
Nous autres, on était pris là-dedans avec Pimentfort et etc. Puis ça faisait deux semaines qu'on était en onde.
Daniel Pinard qui était allé au franc-tireur et qui avait dit. Mais il avait fait son coming out, premièrement. Il avait fait sa sortie de placard. Puis, il avait dénoncé le fait qu'à Pimentfort, on faisait des blagues sur les gays.
Mm-hmm. Puis là, on avait rentré là-dedans aussi à cause du jeune, du FIF et du macho. Ah, là, on avait 22, 23, 25 ans. Deux shows en arrière de la cravate. Puis on était pris dans ce tollé. Puis, honnêtement, je trouvais qu'on méritait pas ça. Puis Daniel, moi, je respecte Daniel Pinard au bout, mais ce que j'ai toujours trouvé beau d'Alex, contrairement à Daniel Pinard ou à Danny Turcotte, puis je leur enlève rien, Alex, il a fronté au jour 1. Il a pas fait sa carrière, puis une fois indépendant de fortune, faire son coming out, il l'a fronté, puis moi, je peux vous dire, des fois, là, on avait la même gérante, on était invités sur des commerciaux, tu sais, quand tu sors, là, tu vas dans toutes les auditions du monde, puis tout ça. Moi et Louis, on était invités, Alex n'était pas invité ailleurs. Parce que la compagnie, de toute façon, allait pas le prendre comme porte-parole ou dans sa pub ou quelque chose comme ça.
Parce qu'il était gay.
Moi, je trouve qu'il a...
Donc, il a payé le prix.
Mais il a payé le prix puis il a jamais fait comme, moi, je vais faire à croire que j'ai une blonde ou que... Non, moi, là, je suis comme ça du jour 1 jusqu'à aujourd'hui. Puis pour ça, là, ça aurait été facile de faire, je laisse planer le doute ou je le dis pas. Ça va être plus dur.
Ouais.
Mais moi, là, je déroge pas de qui je suis. Puis je pense qu'il a fait évoluer beaucoup.
Ben, totalement.
Honnêtement, je trouve qu'on y redonne pas assez.
Mais t'as tout à fait raison, mais je suis contente qu'on lui rende hommage aujourd'hui.
Écoute, Georges, cet été, s'est passé quelque chose de très important. Mm. Historique. En Afrique, ils ont éradiqué la polio.
Ah, je pensais que tu parlais de George
Floyd. OK, ça fait des années... qui ont des problèmes avec la polio, qui est éradiquée partout à travers le monde. En Afrique, c'est fini. Il n'y a plus un Christi de cas de polio. Sais-tu pourquoi? Le vaccin!
Ah!
C'est des campagnes de vaccination pendant des années!
C'est là, je vais aux toilettes.
Ils ont vacciné pendant des années et là, il n'y a plus de polio en Afrique. Merci.
Alors, Georges, c'est l'occasion que t'as de mettre les choses au clair sur ta position sur le vaccin.
Veux-tu qu'on revienne sur le vegan, c'était moins pire,
moi,
on dirait.
Moi, c'est pas aller où tu veux. J'ai aucun sujet tabou, il n'y a pas peur. C'est quoi ta question?
Mais il n'y a pas vraiment de question.
Ben, quand on parle de Georges Larac, c'est égal anti-vaccin. C'est-tu vrai, ça?
OK, là, c'est... Là, non, mais le titre a été sensationnaliste parce que les vaccins que je me suis prononcé, Puis là, il a fallu que j'explique aux gens. Je peux pas parler de la polio parce que c'est pas un vaccin que j'ai connu puis qui est un problème ici au Québec. Fait que si ça marche en Afrique, tant mieux. Moi, les vaccins que je me suis prononcé que j'étais anti-vaccin, c'est contre le vaccin de la grippe, contre le vaccin de l'H1N1, puis contre celui de la COVID, qui n'existe pas encore de toute façon. C'est les trois vaccins dont lesquels je parlais. Quand l'article est sorti, c'est pour ça j'ai appelé Jean de Montréal, j'ai dit, pourquoi vous dites que je suis anti-vaccin? J'ai pas donné de pronostic sur les autres. Puis c'était des vaccins que je connais pas. Je peux pas être contre des vaccins que je connais pas. Puis que je
t'ai dit que toi, si y a le jour où il y aura un vaccin pour la COVID, tu le prendras pas.
Exactement.
C'est ça que t'as dit. Mais non, mais il y a pas besoin d'être immunisé.
Moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, je suis contre. J'ai jamais tué au vaccin de la grippe.
Ouais.
Puis l'H1N1.
Mais pourquoi? Le vaccin de la grippe, quand même, il y a plein de gens qui le prennent chaque année et toi, tu le prendrais jamais.
Parce que
toi, t'as une santé de fer, t'es une exception.
Depuis que je suis vegan, j'ai jamais eu la grippe. Depuis que je suis vegan.
Même pas un rhume?
Non. Absolument rien depuis que je suis vegan.
Oui, mais t'es asthmatique. Fait que le fait que t'es vegan n'a quand même pas réglé tous tes problèmes de santé.
Ben, t'as quand même eu la COVID.
Non, mais j'ai jamais eu la grippe depuis que je suis vegan.
Mais t'as quand même eu la COVID.
Oui, j'ai eu la COVID.
Comment ça se fait que t'as eu la COVID? Alors que t'es super bonne santé.
Ben, parce que la COVID, virus qui, j'imagine, qui est plus virulent que la grippe. Mais je l'ai eu. Je l'admets que je l'ai eu.
Qui est plus contagieux.
Mais, de notre côté, après 3 jours, j'ai récupéré du COVID à 100% puis je suis correct.
Toi, t'es pas monsieur, madame, tout le monde. Toi, t'es un erreur de la nature, là. C'est ça, là.
Un prodige
de la nature.
Oui, j'aime bien le mot prodige. J'aime bien le mot, tu sais, quelque chose de plus positif. Je sais que t'aimes l'intensité négative, sensationnaliste. Puis c'est ton branding, puis c'est parfait, puis ça marche, puis les gens adorent ça.
Non, mais une exception, je veux dire. Une exception, là.
J'admets que je suis une exception. Je l'admets là-dessus.
Mais tu peux pas dire parce que moi, j'ai fait ça, ça marchera pour les autres.
Mais Richard, oublie pas que quand on s'est parlé, j'ai dit pour moi. J'ai dit, je vous dis pas de. J'ai même dit quand je t'ai parlé que les gens de ma famille, eux, sont pro-vaccins, puis c'est correct, puis je les critique pas.
Mais tes enfants, tes deux jumeaux.
Mes jumeaux.
Si, à un moment donné, il y a un vaccin pour la COVID, vas-tu dire à ton ex-blonde, à la mère de tes enfants, fais vacciner les petits.
Elle me l'a demandé, ça, la mère de mes enfants, quand j'ai eu la COVID. S'il y a un vaccin, qu'est-ce qu'on fait?
Oui.
Moi, je lui ai dit, c'est toi qui fais la décision quand tu les as. Tu fais la décision toi-même. Moi, j'impose absolument rien à personne.
Mais c'est toi, ça. Tu ne ferais pas vacciner tes propres enfants?
Ça dépend de plein de choses, de plein de détails.
D'accord.
Oui, je vais toujours respecter la loi si c'est un projet de loi qu'on met. Mais si on a une option de choisir oui ou non, moi, ça serait non.
Pour tes enfants. Jean-François, toi?
Non, en fait, Moi, honnêtement, je me calcule assez en forme, mes enfants aussi. J'ai pas vraiment peur de la COVID, mais là, on semble dire que la seule solution pour sortir de ce confinement et réapprendre à vivre, c'est le vaccin. Fait que si personne le prend, ça veut dire qu'on va rester comme ça pour le restant de nos jours. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, il va falloir que quelqu'un, que ce soit les gens qui nous soignent dans les hôpitaux, les personnes plus vulnérables, il va falloir que quelqu'un le prenne, ce vaccin-là, parce que sinon,
J'ai une question pour vous autres par rapport à ça.
Ouais, c'est bon.
Oubliez le vaccin. Sans vaccin, là, vous pensez pas qu'on peut réapprendre à vivre avec?
Ouais. Moi, je suis full d'accord. Moi, je suis full tranchant là-dedans, là.
Parce que là.
Je te laisserai ça aller. Sélection naturelle. Merci, bonsoir.
Moi aussi. Tu sais, admettons, là, que j'ai un exemple. Admettons que le COVID n'existait pas. Admettons, là, qu'on n'aurait pas donné un nom à ce virus-là.
Ouais.
Puis, on serait tous continué à vivre normalement. Qu'est-ce qui serait arrivé? Est-ce que tu penses que la société, on serait tous morts aujourd'hui? Si, admettons que le COVID n'existait pas, puis on avait juste...
Pense
à ça 2 secondes.
On sait pas.
C'est sûr que non.
Non, mais pense à ça 2 secondes. Les gens qui sont susceptibles au COVID, des personnes âgées, des personnes à risque, sont susceptibles à n'importe quelle forme de virus aussi. Mais quand on regarde ça, il faut pas oublier du fait que... Tu sais, là, on l'a nommé, on l'a donné un nom, puis on sait c'est quoi, puis les gens ont peur. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut... se dire qu'il faut recommencer à vivre normalement.
Ben, il faut recommencer à vivre normalement, jamais... Georges, parce que sinon, on va devenir fou.
Pensez à ça.
Je te le dis, on va devenir fou.
C'est impossible que le gouvernement crée un vaccin qui va être obligatoire. Ça n'arrivera jamais. Il va toujours avoir un choix, mais tu ne pourras pas faire de quoi d'obligatoire, ça se peut pas. Parce qu'un vaccin, il va toujours avoir un risque d'en prendre un. Même si la majorité des vaccins sont positifs, étant donné qu'il va toujours avoir un risque, il n'y a aucun gouvernement qui va pouvoir forcer des gens à prendre un vaccin.
Non, mais la seule chose que ça va faire, le vaccin, même s'il n'est pas obligatoire, puis même s'il n'y a pas 100% des gens qui le prennent, ce que ça va faire, c'est qu'on va pouvoir recommencer à voyager. Parce que là, tu vas pouvoir quand, avant de prendre l'avion, on va te dire, as-tu ton vaccin? Oui. Puis là, tu vas montrer ta petite carte de vaccination. Tu vas dire, oui, je suis vacciné. OK, vous pouvez aller à Paris, vous pouvez aller à Tokyo. Est-ce que tu vas pouvoir aller au restaurant? On va te demander, t'es-tu fait vacciner? Oui, OK, parfait, rentre dans le restaurant.
Tu sais combien de docteurs qui vont te donner ton papier de vaccin sans qu'il soit?
Ouais.
Mais à ce compte-là, par contre, George, c'est pas un peu égoïste d'attendre que tout le monde le fasse?
Ah oui.
Toi, tu le fais pas. C'est un peu comme, moi, je compare ça au confinement, quand les gens disaient, tu vois, les cas baissent, je peux sortir avec mes chums. Ben oui, c'est sûr, les cas baissent. Moi, je reste chez nous.
Fait que, oui.
Fait que parce que moi, je reste chez nous, toi, tu peux sortir. Tu comprends? Parce que moi, je me fais vacciner. Toi, tu peux te promener sans te faire vacciner.
Ben, c'est vrai en maudit, ça. Il y a un côté, il y a un manque de civisme. Ouais. Puis ces gens-là sont protégés parce que nous autres, c'est sûr que on est responsables.
Si on est, mettons qu'à soir, là, on est tous les trois vaccinés, sauf Georges, ben là, c'est sûr que tu n'as aucune chance de le pogner. Nous autres, on est vaccinés. Oui. Mais dans le fond, on a fait la sale job, entre guillemets, pour toi.
En passant ça, c'est-tu vegan?
Je ne sais pas ça. Non, après moi, ça vient du Saint-Hubert.
Je suis désolé. Je ne savais pas quoi faire comme dessert
assez,
vegan.
T'as pas eu assez de sushi, là, t'as tout le dessert.
T'as vu, j'ai pas mangé mes frites, ni ma peau de poulet. J'ai mangé 4 de tes sushis.
Bravo! J'applaudis.
Mais je m'alimente bien.
Écoute, moi, je pense qu'on va trinquer là-dessus. Et je veux juste te poser une question. Le vin, est-ce qu'il est vegan? Est-ce qu'il y a des vins vegan et des vins pas vegan?
Oui, je vais te dire, je vais te dire avec toi.
Je connais la réponse, mais je pose la question quand même.
C'est rare que je bois, mais quand je vais en prendre de temps en temps, je vais pas regarder dans l'Internet si le vin est vegan ou pas. Je vais en prendre.
Il y a un petit vignoble à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai fait une tournée des vignobles cet été. Il fait des vins vegan. Ils sont vraiment très bons.
Ah, je savais pas ça. Je vais aller
là,
voir ça.
Je cherche le nom. Je sais que c'est ceux qui font le Clos de France. Parce que lui, il s'appelle Claude. Ouais. Elle s'appelle France. Ils ont fait le Clos de France.
Oh, c'est mignon.
Je me souviens pas du nom du vignoble. Je vais te trouver.
Ça, puis je vais
honnêtement, ils font des bons
vins. C'est local.
C'est local, c'est vegan. C'est vegan.
Est-ce que les raisins sont ramassés par des gens trans?
la question
est posée.
Merci beaucoup, les amis.
Vous avez écouté le balado « Devine qui vient souper » avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.